Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Comment allez-vous?
Ça va et toi?
Très bien et toi Alexis?
Bah, très bien, c'est gentil de demander. tout le monde est encore autour de la table cette semaine et oui, on ne se quitte plus, on passe tout le mois d'août ensemble.
Et
il
oui.
y en a qui sont partis en vacances ensemble, non?
Ça et c'est oui. une bonne question. Écoute, je ne suis pas habilité à donner des réponses aussi personnel
et
intime bien sûr. Non mais on passe le mois d'août ensemble, voilà, on c'est comme si on faisait une grande colo au final, hein, la colo d'été. Alors, on en arrivait toute l'année, on y arrive enfin. Cette semaine, on va donc parler des sorties du 23 août, à savoir de prime abord Anatomie d'une chute, La Palme d'Or, réalisée par Justine Triet. On parlera également dans une deuxième partie des autres films de la semaine, enfin de l'autre film de la semaine, à savoir Le Dernier Voyage du Déméter, sur les nouvelles aventures de Dracula au cinéma. On parlera aussi du Festival IMAX qui revient cette semaine dans les cinémas pâtés, avec l'occasion de redécouvrir des films justement qui ont marqué cet été dans les salles, mais justement sur très très grand écran. Il y aura bien sûr des cadeaux à gagner. Et ça, on ne s'en lasse pas, n'est-ce pas, Lisa?
Évidemment, jamais.
Évidemment, jamais. Surtout que vous n'avez pas le droit de participer, donc ça, vous n'avez absolument rien à fiche. Mais c'est pas très grave.
Et puis que quand on joue, on gagne rien.
Enfin bon, ça, en plus, tu parles du jeu de la semaine dernière.
Par exemple.
J'ai l'impression que.
Il a du mal à.
Que les musiques.
Bah, en plus, j'ai perdu, donc si tu veux, rien ne va, quoi, sur ce
il
jeu.
Il a du mal à digérer la défaite,
Ça m'a l'air compliqué. Jean-Marc Robin ne dit rien. Il préfère. Il préfère jouer la carte de la modestie. Et c'est,
le train de tes insultes roule sur
le train de tes injures hein, roule sur les rails de mon indifférence. Enfin voilà, un vaste programme pour cet épisode. Mais on commence par un sujet qui fait désormais l'actualité depuis plusieurs semaines et même plusieurs mois. C'est un sujet dont vous avez peut-être entendu parler et qui fait grand bruit en Californie, aux États-Unis et qui commence à avoir des répercussions eh bien, un peu partout dans le monde. C'est la grève des scénaristes et des acteurs par la suite, puisqu'ils les ont rejoints dans le mouvement américain. On va vous expliquer un peu, grosso modo, en quoi ça consiste. Alors pas en quoi ça consiste une grève, parce que ça, je pense que c'est assez simple à situer. Mais du moins, cette grève des scénaristes et des acteurs américains, déjà, elle concerne qui? Pourquoi elle a lieu? Et surtout, quelles seront potentiellement les conséquences de celle-ci pour remettre un peu de contexte. Qui fait grève donc aux États-Unis c'est la WGA, c'est-à-dire que la Writer Guild of America, donc la guilde des scénaristes américains qui sont donc en grève depuis le mois de mai. Depuis le 2 mai. Tout à fait. Robin a toutes les dates. Si jamais vous avez des questions, hop là, @Robin. Et il répondra bien sûr à tous vos problèmes, personnels ou privés, ou professionnels bien sûr. On se souvient d'ailleurs que ce syndicat avait fait une grève très marquante. C'était en 2007.
Tout à fait, qui avait duré 100 jours et qui a occasionné les fameuses saisons 2, 3 ou 4 des séries de l'époque. Ça avait surtout touché la télévision, un petit peu le cinéma. On peut penser à X-Men Origins Wolverine, par exemple.
Et on a vu l'impact voilà. que ça a eu sur le film.
Mais voilà, on pense à Lost, on pense à Prison Break, on pense aussi à...
C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait eu beaucoup de séries, qui avaient de saisons de séries qui avaient été... oui, Heroes, exactement. Ça l'est pas fait
c'est
du bien.
Que je cherchais.
Ça avait raccourci les saisons, sur des en fait, saisons de 24 épisodes, on était passé sur du 12-13.
C'est
presque.
Ça, les scénaristes s'étaient arrêtés de travailler, donc ça avait dans l'urgence modifié certains scripts, certains scénarios avant que la grève ne commence. Et comme tu disais, des saisons de 24 épisodes passées à 12 avec des incohérences scénaristiques et on sentait vraiment ouais. voilà c'est ça
n'avait pas fait du bien
exactement et bon, certaines ouais. séries ont pu s'en remettre, je pense encore à Lost d'ailleurs, d'autres un petit peu moins comme Heroes.
À la différence près que cette fois, le syndicat des acteurs, donc le SAG-AFTRA, est également en grève. C'est la première fois que le syndicat donc, des acteurs américains est en grève depuis 1980. Et c'est la première fois qu'ils sont en grève en même temps, donc les scénaristes et les acteurs, depuis 60 ans. Donc ça relève...
Depuis 1960. Quand même,
c'est ça, donc ça relève donc 63 ans, excuse-moi si j'ai arrondi.
Écoute, tu m'as donné la responsabilité des dates.
Et la dernière fois, c'était Ronald Reagan qui menait le combat ouais, pour les acteurs. Il n'était pas encore président.
En 1980
Non.
En 60.
Voilà.
Ah, 19.
Et donc en grève, pour terminer, depuis le 13 juillet 2023.
Ah oui, donc vraiment, des chiffres, vraiment, tu as un rôle et tu t'y tiens. Écoute. Et on t'en remercie. Mais donc voilà, tout ça pour dire que les acteurs, les scénaristes sont donc en grève, ce qui signifie que, grosso modo, toutes les productions sont aujourd'hui à l'arrêt, parce que, c'est-à-dire qu'on peut continuer un tournage sans scénariste, c'est-à-dire qu'à la condition près qu'aucune virgule ne soit modifiée du script, sauf que sans acteur, c'est un petit peu plus compliqué. Mais alors, est-ce qu'on sait pourquoi, justement, c'est une question un peu rhétorique, hein, parce que j'ai quand même préparé cet épisode. C'est juste une technique que j'ai déjà vue à la télévision d'animateur.
Pas mal.
Voilà, j'ai déjà vu 2-3 émissions.
Mais oui, Alexis, on sait.
Mais alors, au final, est-ce qu'on sait pourquoi ils font la grève?
Pour plusieurs raisons.
Mais je t'en prie, Lisa.
En fait, on va dire, grosso modo, pour résumer un peu les revendications, que ce soit celles des scénaristes ou des acteurs.
Oui, qui sont assez similaires.
Qui sont assez similaires, effectivement. Ils demandent une revalorisation de leur métier, parce qu'en fait, ils remarquent que depuis plusieurs années, par exemple, leur rémunération a baissé. Il y a aussi tout un système et tout un microcosme qui s'est mis en place depuis plusieurs années en raison de l'arrivée des plateformes, qui fait que, par exemple, les scénaristes, autant que les acteurs, ne vont pas toucher des royalties sur les productions qui sont diffusées actuellement sur toutes les plateformes de streaming.
C'est-à-dire qu'en plus, les plateformes ont un système assez opaque de partage d'informations. C'est-à-dire que là où la télévision a des chiffres d'audience assez connus, les plateformes ne partagent que très rarement
leurs
chiffres et surtout ont des systèmes de métriques très différents les uns les autres. Ouais. Netflix partage plutôt bien ses chiffres et ces informations-là aux talents et aux artistes, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les autres plateformes, et ça fait en effet partie des revendications.
Ils rémunèrent pas ou peu.
Oui, quasiment pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices et de scénaristes et j'en passe, qui montrent des chèques, qui reçoivent automatiquement des chèques pour avoir donc leurs résiduals, donc les fameux royalties sur des plateformes, sur leur production, leur programme, où c'est 0$ ou quelques centimes.
On avait un exemple, un acteur de Jurassic World, qui montrait, après une diffusion à la télé, ce que les royalties lui apportaient. Et donc, ça se comptait en milliers de dollars quand même, par trimestre ou quoi. Et ensuite, il montrait pareil par rapport à une plateforme en particulier. Et alors que son film était peut-être dans les top 10 tendances de la plateforme, et on constatait 50$, 43$. Ouais. Et donc ça, voilà, ça va un peu avec tout ce sujet.
Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, à la télé, comme tu disais, Alexis, les choses sont assez claires et surtout ont été négociées, c'est-à-dire entre les syndicats et les grands patrons de chaîne. Ce qui se passe, c'est que les acteurs, comme les scénaristes, sont payés pour le travail qu'ils effectuent. Et puis après, en fonction des rediffusions, et en fonction du succès des rediffusions, ils touchent de l'argent qui est variable et qui dépend effectivement du succès. Or, il n'y a aucune communication sur le succès et sur les audiences de la part des plateformes.
Donc, et ça fait partie donc de l'une des revendications majeures de cette grève, quoi.
Et petite précision, notamment pour les scénaristes, notamment dans le cas des séries télé, un changement quand même d'époque où on est passé de séries avec 12-24 épisodes, donc forcément plus de budget et un salaire différent, à des séries ou des saisons très courtes, de 6 épisodes, 8 épisodes, 10 épisodes. Donc déjà ça fait que les salaires des scénaristes ont baissé. Et la diffusion à la télé n'est plus la même, comme on disait, qu'avant, avec maintenant beaucoup de programmes pour les plateformes de streaming. Et ça, plus ça, plus ça, fait qu'on en est à la grève aujourd'hui.
Et puis, il ne faut pas oublier que les plateformes de streaming, même si on est en plein dedans et qu'on a un peu du mal à prendre du recul, ça reste quand même quelque chose d'assez récent. Je pense à Netflix, qui est le meilleur ambassadeur de ça. Netflix a une vingtaine d'années, mais en termes de plateforme telle qu'elle est aujourd'hui, c'est encore plus jeune. Je crois que l'arrivée en France, ça doit être 2014. Donc il y a toute une économie qui est quand même un petit peu justement où ça se cherche, parce que le deuxième point que j'avais, c'était que au final des plateformes comme celle-ci ont énormément investi d'argent dans des films, dans des séries que personne ne regardait. C'est-à-dire que forcément il y a cette espèce de course en avant où chaque plateforme a créé du contenu, beaucoup de contenu pour alimenter et faire du flux sur ces plateformes, mais des contenus qui n'ont pas forcément marché. Et du coup, il y a des dettes parfois abyssales sur certaines plateformes. Il faut réussir à contenir les coûts. Et le fait est que maintenant, il réduit justement la voilure sur le nombre de productions, sur le nombre d'épisodes. Forcément, ça a un effet où ils avaient visiblement habitué le marché, des scénaristes, des acteurs, à beaucoup travailler sur ces plateformes. Il y a moins de travail. Et aujourd'hui, on se retrouve en plus avec ce problème des residuals. Donc, il y a vraiment ce problème de, enfin, sur ce premier problème, parce qu'il y en a d'autres. Il y a aussi l'utilisation de l'image sans pour autant jouer dans le film. Ça, on l'a vu typiquement dans des films comme The Flash récemment, où il y a des acteurs décédés qui reviennent à l'écran. Même c'était le cas déjà dans Rogue One, par exemple, Star Wars Story, etc. Il y a aussi l'utilisation de l'intelligence artificielle qui fait peur aujourd'hui, surtout aux scénaristes, parce qu'on se dit, mais en fait, si on demande à un logiciel écris-moi une histoire avec 10 points sur tel ou tel sujet, si la machine sait le faire, alors forcément, les questions de savoir quel intérêt de faire ça, est-ce que ça va être bien écrit, etc. Mais il y a quand même beaucoup de sujets.
Et ça concerne aussi les acteurs.
Faire
à des acteurs. On peut avoir l'exemple de, il y a quelques semaines, Brian Cox, qui justement l'acteur de Succession, donc assez connu, qui disait moi, je ne veux pas que l'intelligence artificielle me fasse faire des choses que je n'aurais pas accepté ou que je n'accepte pas en tant qu'acteur.
Ça va même presque plus loin, tout en étant moins fantasmatique, on va dire, parce que là, effectivement, enfin, même si aujourd'hui, certains spécialistes d'intelligence artificielle disent très clairement, on est quasiment au moment où on pourrait remplacer un acteur par une présence numériquement recréée. Les machines pourraient le faire aujourd'hui. Mais au-delà de ça, qui reste pour l'instant totalement fantasmatique, encore une fois, c'est des choses toutes bêtes, qui est que, par exemple, l'utilisation, ça n'a pas été négocié, en fait. L'utilisation de par exemple, tu as une foule, tu as un plan d'une foule, tu veux le recopier dans un autre film parce que ça te plaît, tu prends un outil, voilà, et tu découpes des acteurs que tu places dans ton film. Ça, c'est pas négocié. C'est des choses et c'est effectivement des choses qui sont sur la table et qui sont en train d'être débattues par les forces en présence.
Mais du coup, voilà, ça veut dire arrêt des tournages, arrêt de l'écriture des projets, et forcément à une époque, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que certains tournages pouvaient continuer tant que ce n'était entre guillemets que les scénaristes qui étaient en grève.
Sachant que ça a empêché aussi l'impro quand même. Donc, y avait déjà au niveau des acteurs, beaucoup de limites.
Quand on sait qu'un film
ne devait pas avoir de scénariste sur le plateau. Tournage.
Ce qui est un petit peu embêtant, parce que si un scénariste est en même temps réalisateur ou producteur ou quoi, ça devient un petit peu plus complexe.
C'est un sujet très compliqué, même pour nous, de concevoir la limite vraiment.
C'est délicat.
C'est très, très. C'est pas
quand
simple
on sait qu'un film comme Deadpool 3 était en tournage, la grève des scénaristes est en cours et qu'en plus ils n'ont pas le droit à l'impro, on imagine qu'un tournage sur un film comme celui-ci, ça devient rapidement compliqué. À partir du moment où les acteurs rentrent en grève, là, le problème, la question ne se pose même plus et c'est fini. Quoi.
Mieux, entre guillemets, pour ces films-là, d'ailleurs, d'avoir
un arrêt total
de la production, c'est plutôt clair, que d'essayer de coller un petit peu avec ce qu'ils ont sous la main pour, on parlait de X-Men Origins Wolverine, Deadpool 3 aurait pu ou pourrait ressembler à ça.
C'est pas le meilleur film de James Mangold, hein.
Non, ce n'était pas de lui à l'époque. Il est arrivé que sur
suite,
The Wolverine.
Oh là là.
Oui, je parle du premier avec Deadpool et voilà.
Je confonds les films Wolverine.
Shame on you.
Ouais, je vois le regard assez accusateur de Gaël et je ne sais plus où me mettre. Je vais me cacher derrière mes fiches. Mais donc voilà, et les conséquences de ça, comme on le disait, c'est forcément des tournages à l'arrêt. Alors, c'est-à-dire que ça empêche les talents de faire la promotion des films, ce qui met en péril des dates de sortie. De certains projets. On sait qu'il y a déjà des films qui sont décalés cette année. On verra justement quelles seront les conséquences de ça sur le long terme. Est-ce que beaucoup de films vont être décalés? Si c'est le cas, ça veut dire que beaucoup de films français ont plus d'importance sur le deuxième semestre de l'année, de facto. Mais en fait, c'est là où c'était le plus impressionnant, c'est que typiquement, la grève est tombée le jour de l'avant-première. La dernière avant-première d'Oppenheimer à Londres. Pour la petite anecdote, moi j'y étais pour les interviews sur le film Barbie. On ne savait pas si le jour même on allait pouvoir faire les interviews, puisque à partir du moment où la grève est actée à Los Angeles par le syndicat des acteurs, ils n'ont plus le droit de prendre la parole devant un micro pour parler d'un projet. Donc en fait, on ne savait même pas si les interviews avec Margot Robbie, Ryan Gosling et tout le cast de Barbie allaient pouvoir se faire. Le fait est que la grève est tombée en fin de journée à Londres, avec le décalage horaire à Los Angeles, parce qu'elle avait été acceptée, elle avait été acceptée par 98% des membres du syndicat, quelque chose genre vers minuit. Les négociations étaient tombées à l'eau avec les personnes avec qui négocient en face, donc à savoir l'alliance des producteurs de télévision et de cinéma, parce que c'est avec eux qui discutent de ce souci-là. Et au final, la grève était tombée en fin de journée, juste après le tapis rouge d'Oppenheimer, c'est-à-dire que les talons d'Oppenheimer, donc Cillian Murphy, Emily Blunt et j'en passe, avaient pu fouler le tapis rouge d'Oppenheimer à Londres, mais n'avaient pas pu présenter le film à l'intérieur de la salle. C'est Christopher Nolan seul qui avait dit, ben voilà, mes acteurs sont partis, puisque à l'instant, la grève vient d'être signée, donc il y a quand même quelque chose de très
concret,
protocolaire et presque militaire, en fait. C'est-à-dire que ça tombe, on ne prend plus la parole et on va manifester devant les studios. Quoi.
Et alors, je crois que ça empêche même les acteurs de participer à des auditions ou à des lectures de scénarios.
Oui, non, mais c'est une grève très loin. Une grève complète, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus exercer leur métier sous quelque façon.
Mais on voit, aux États-Unis, ça si ça continue, ça pourrait être vraiment dramatique parce que il y a certes, tu parlais de la promotion, mais ça veut dire que tu as tous les late shows qui vont s'arrêter.
Alors par chance, entre guillemets, ils étaient sur la fin de saison.
Voilà, c'est ça.
C'est vrai que des émissions comme
le soir même, dès la grève des scénaristes, comme c'est du direct et que c'est, ce n'est pas enregistré avant, se sont arrêtés le soir même.
Ouais, non,
mais il y a des archives très drôles de Conan O'Brien pour la grève de 2007 où il n'avait plus d'auteur. Et lui faisait l'émission un peu en roue libre parce qu'il avait l'antenne. Et il faisait des trucs et ça a donné des moments assez mémorables. Mais après, forcément, nous, on voit les extraits sur des émissions d'une heure. À mon avis, tout n'était pas forcément extraordinaire. Mais oui, c'est vrai qu'à la rentrée, ça va être compliqué.
Il n'y a pas que le cinéma, en fait.
Parce que qu'est-ce qui a été mis en boîte au niveau des séries? Forcément, il va y avoir un impact, peut-être pas immédiat, mais sur le long terme, potentiellement.
Et petit mot, parce qu'on parlait des acteurs et du revenu des acteurs... On entend parfois beaucoup que les acteurs ont énormément d'argent ou sont déjà millionnaires. Ce qui est important de préciser, c'est que le syndicat compte plus de 160 000 membres. Et même les très gros acteurs, les grosses stars hollywoodiennes, font grève déjà parce qu'ils font partie du syndicat, mais en solidarité avec les plus petits comédiens, les plus petits acteurs qui n'ont pas les mêmes cachets habituellement et qui luttent vraiment pour avoir une reconnaissance de leur travail.
Je trouve que l'engagement des grandes stars, là, a été important et notable. Je pense à Bryan Cranston ou des gens qui ont vraiment pris la parole.
Colin Farrell aussi, tout le temps devant les studios avec
Seth Rogen, Jack Black.
Le même Dwayne Johnson, la donation qu'il a faite, l'énorme donation.
Il a fait la plus grosse donation unique.
À 7 chiffres, c'est ça, sans dévoiler le.
Et à 7 chiffres, ça fait de 1 million à 990. À 9 999 999.
Voilà.
On vous laissera choisir. C'est le jeu de l'esprit. Pas du tout. Et ça impacte forcément donc des tournages, on l'a dit. On sait d'ailleurs quels films sont impactés.
On voit que certaines productions donc sont arrêtées. On peut penser à Wicked, donc les deux films Wicked qui doivent sortir en 2024 et 2025.
Donc l'adaptation de la comédie musicale de Broadway inspirée du Magicien d'Oz.
Tout à fait.
Avec notamment
Ariana Grande. Donc le film qui était à quelques jours d'ailleurs de la fin du tournage, mais plus d'acteurs, donc le tournage est stoppé. On peut aussi penser à la suite de Spider-Man Across the Spider-Verse, qui était donc daté pour l'année prochaine, mais les dialogues n'avaient pas encore été enregistrés. Même conséquence, plus d'acteurs, plus de doublage, donc le projet est reporté.
Mission Impossible, Dead Reckoning partie 2 aussi.
Gladiator 2, venait juste de commencer son tournage et qui s'arrête.
Aussi.
Alors après, il y a certains tournages qui continuent, je pense à des séries télé ou même à certains films qui sont typiquement au Royaume-Uni.
Oui, parce que les acteurs
anglais qui ne feront pas partie donc, du syndicat qui peuvent continuer de tourner. Autre possibilité pour les acteurs de continuer de tourner, une espèce d'alternative.
Oui, en fait, le syndicat des acteurs a quand même livré une liste de 39 films, si je ne dis pas de bêtises, en gros, en donnant effectivement la priorité à des films plus indépendants et pas aux gros studios qui sont quand même à l'arrêt, notamment via les films qu'on citait à l'instant.
Parce que le vrai problème qu'ont ces syndicats-là, c'est vraiment avec les grosses majors américaines, gros studio. Donc en effet, ils laissent la possibilité à des plus petits studios.
Je pense qu'ils ont réalisé qu'en mettant un frein à toutes les productions, ils tirent une balle dans le pied.
Il y a une économie en danger.
Exactement.
Aussi derrière.
Fragile notre cinéma.
Si le but est de défendre des comédiens moins notoires, autant ne pas les mettre en danger avec cette grève-là aussi. Et c'est pour ça qu'il y a quelques tournages qui ont été autorisés à reprendre. Il y a notamment notamment, si je dis pas de bêtises, un film avec Anne Hathaway, Mother Mary, qui est de David Lowery. Il y a Death of the Unicorn avec Jenna Ortega qui a été autorisé. Après, il y a d'autres films. Alors, je sais pas si lui avait été forcément autorisé à reprendre, mais je pense par exemple à Apex avec Brad Pitt, qui lui, pour le coup, aussi a montré sa, a apporté son soutien, en fait, et a dit non, on reprendra pas le tournage, oui, même si on est autorisé. Donc voilà, il y a quand même ce...
Alors, qui fait pas forcément partie des petites productions.
Exactement, hein, mais évidemment. Mais apparemment, ils avaient été autorisés à tourner et ils avaient dit non. Il y a aussi un autre film avec Viola Davis. Donc, il y a quand même cette micro-condition qui a été donnée aux grévistes, mais toujours en mettant quand même en avant ces films indépendants et en continuant la grève aussi.
Un vaste sujet que nous avons essayé de décortiquer, parce que c'est vrai que ça a fait l'actualité depuis maintenant plusieurs mois et on ne sait pas exactement comment ça va se terminer, mais c'était important de peut-être de revenir justement là-dessus. Et bien sûr, on regardera avec attention ce qui va se passer dans les mois à venir là-dessus. C'est donc quelque chose qui n'impacte pas forcément le cinéma français, puisque on va parler d'eux. Cet été, on commençait deux tournages de grands films français à venir. On pense forcément en premier au film Le Comte de Monte Cristo, réalisé par le duo Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, un film porté par Pierre Ninet, avec un casting qui a d'ailleurs été dévoilé il y a quelques semaines, un casting qui est très impressionnant, puisqu'on retrouve Bastien Bouillon, qu'on avait vu notamment dans La Nuit du 12, on a Anaïs de Moustier, on a Anna-Maria Vartolomei, qu'on avait notamment vu dans le film L'Événement, il y aura aussi Pierre Francesco Favino, enfin bref, un casting assez impressionnant pour ce nouveau projet, un peu dans la même veine que Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, qui est sorti en avril dernier, et de Milady, qui sortira donc le 13 décembre prochain. Autre grand film, toujours chez Pathé, puisque Comte de Monte Cristo, ça sera un film Pathé, un film adapté d'un livre... Charles de Gaulle, Une certaine idée de la France, un film en deux parties, réalisé par Antonin Baudry, à qui on doit notamment, qui est un auteur de BD à la base, hein, puisqu'il avait fait la BD Quai d'Orsay.
Qui est un diplomate à la base.
Qui est un diplomate, mais qui base, ensuite...
Qui a fait,
à la base de la base.
À la base de la base, qui a fait, de son expérience, il a tiré le scénario d'une BD, qui est devenu un film...
Quai d'Orsay,
scénarisé par Baudry et réalisé par
Tavernier.
Voilà.
Tout à fait. Ensuite, il a réalisé Le Chant du Loup, film d'action de sous-marin extraordinaire qui est sorti il y a quelques années. Et aujourd'hui, il réalise ce film donc, sur la vie de Charles de Gaulle. Alors, sur la vie de Charles de Gaulle, pas sur la vie complète. Hein, on est vraiment sur la période, sa période à Londres. C'est-à-dire que vraiment le cœur de la Seconde Guerre mondiale, le moment où il
quitte. C'est un peu. Alors, si je me trompe, d'ailleurs, tu dis un livre, c'est plus qu'un livre, c'est vraiment un.
C'est un super livre.
C'est ni un livre.
Reste sur les dates de la grève.
Non, c'est un bouquin qui fait référence maintenant en matière d'histoire. C'est écrit par un Anglais dont j'ai oublié le nom, évidemment, parce que sinon ce serait pas drôle. Oui. Mais je crois que c'est vraiment. C'est vraiment...
Mais j'attends le moment où tu vas me dire que ce n'est pas un livre.
Non, mais quand tu dis livre, on a l'impression que c'est un truc de fiction, mais c'est une vraie somme d'histoire. C'est pas que sur Londres, parce que je crois que c'est de 40 à 44.
Oui, non, c'est ça, mais du moins c'est sur, c'est sur la Seconde Guerre
mondiale.
C'est
de Gaulle en
fait. Comment en fait il devient. Voilà. De Gaulle.
Donc, ce n'est pas effectivement l'intime qui était l'axe.
Tout à fait, du film
choisi,
justement avec Lambert Wilson. Ça sera un film en deux parties qui sortira, je pense, horizon 2025. Bref, voilà, donc deux gros projets qui, eux, sont en tournage dès cet été. Le Comte de Monte Cristo et deux films sur la vie de Charles de Gaulle.
Il tournait au Panthéon, là.
Mais tout à fait,
ils étaient au Panthéon.
Ils étaient aussi à Gare de l'Est la semaine dernière.
Voilà, ils sont partout.
Ah, incroyable. En tout cas, on suivra bien sûr la carte de France des déplacements du tournage de Monte Cristo.
Un
nouveau rendez-vous chaque semaine. On partira en région où on enverra Gaël avec un petit micro, voilà, un petit micro sans fil.
Séance tenante, aime le terroir.
Hein. Exactement. Je pense qu'on pourrait vraiment arrêter l'épisode là-dessus. Mais non, car il y a un grand sujet dont il faut qu'on parle.
Il y a un grand film.
Un grand film. On parle maintenant d'Anatomie d'une chute, un film réalisé par Justine Triet.
Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents au moment où t'es sorti de la maison, c'est ça?
En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait...
Ah oui, mais non, enfin, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas.
Enfin, je sais ce que j'ai entendu.
So, as you know, the autopsy report is inconclusive about the cause of death.
Stop. I did not kill him.
Justine Triet, qui l'ont de notamment La bataille de Solferino, Sibylle ou encore Victoria, deux films avec Virginie Efira d'ailleurs. Anatomie d'une chute, c'est donc le film qui a remporté en 2023 la Palme d'Or à Cannes, dans un jury présidé par Ruben Östlund. Qu'est-ce qui fait qu'Anatomie d'une chute est un film qui... qui méritait cette récompense suprême au Festival de Cannes.
Moi, je trouve que c'était un des films les plus aboutis
de la compétition.
La compétition. C'est un film qui, peut-être qu'on peut quand même rappeler très brièvement ce dont ça parle. C'est un homme est retrouvé mort au pied de son chalet en hiver. La police arrive et tout de suite, la question se pose, est-ce que c'est un suicide ou est-ce qu'il a été tué par sa femme, qui est jouée par Sandra Hüller.
Ou est-ce que c'est un accident même ?
Voilà, un accident ? Ce qui va se jouer, c'est un film de procès, même si c'est en fait un peu plus compliqué que ça, mais c'est un film de procès.
On en reparlera justement des films de procès après, parce que c'est une structure à part entière,
totalement,
et c'est un genre.
Totalement. Mais là, elle joue avec. Donc c'est un film de procès, c'est-à-dire que l'essentiel de l'action se déroule pendant le procès, et on va donc d'abord ramener des témoignages, dont celui de l'enfant du couple, qui a la particularité d'être malvoyant. Et on rapporte surtout une pièce audio, un enregistrement d'une partie d'un moment de la vie du couple où on comprend en fait que l'homme et la femme étaient en tension.
Et tout le film, ça va être justement de disséquer
ce couple
et donc couple. De facto la chute.
Voilà,
c'est le titre du film. C'est aussi ça qui fait la force du film, c'est-à-dire on prend jamais il y a jamais un point de vue particulier dans l'enquête, c'est-à-dire qu'on va découvrir au fur et à mesure tout un tas de nouvelles pièces dans le dossier pour essayer presque de se forger un avis nous-mêmes, comme si on faisait partie du jury dans le tribunal. C'est aussi ça qui fait que le film prend au trip.
Je pense que ça y fait, parce que en fait là où la mise en scène de Justine Triet elle est hyper intéressante, c'est que déjà elle convoque tous les sens, parce que comme tu disais, le fils qui est malvoyant, le fait qu'il y ait cet enregistrement audio. En fait, elle va jouer sur nos sens, sur les sens du spectateur, sur les sens du jury et des personnages. Et en même temps, tout ça va faire qu'on va construire notre propre opinion et qu'en fait, des fois, on va passer... C'est-à-dire que des fois, on va croire à la culpabilité du personnage qui est joué par Sandra Hüller, parfois à son innocence. Et en fait, il y a une sorte de ping-pong entre l'histoire et le spectateur qui est continue, et ce qui crée une tension énorme. Et en même temps, ça lui permet donc de construire son film de procès, de construire un film hyper personnel sur le couple, de construire aussi le portrait d'une femme qui est à la fois une mère, qui est à la fois une épouse, qui est à la fois une artiste. Il y a plein de problématiques en fait dans ce film-là qui fait que Anatomie d'une chute même a plusieurs genres en fait. Et c'est ça ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est un film de procès certes, mais il y a plus encore, et c'est un film hyper dense en fait. Et pour le coup, très abouti en plus.
C'est un film qui joue aussi de ça. Quand on regarde son affiche, une affiche avec ses deux personnages principaux, Sandra Hüller et son mari, la victime du film, qui sont en train de rire à éclat devant ce mur rouge. On n'a pas l'impression qu'on va voir un film justement de procès sur le décès d'une des deux personnes sur l'affiche. Et pour savoir si l'autre personne est coupable d'un éventuel meurtre, il y a quand même un jeu des genres dès là. Quoi.
Un jeu des genres, un jeu des... Je trouve qu'il y a un côté, il y a évidemment le plaisir du genre du thriller ou du film de procès qui est de tout le temps mettre des fausses pistes en fait, t'embarquer dans des histoires qui en fait se révéleront fumeuses. Donc il y a ce jeu-là qui est un pur plaisir ludique de spectateur. Moi, ce que tu disais, un truc qui est très juste, je trouve, et qui moi je trouve fait la richesse du film, c'est que c'est un film très personnel. Ouais. On sait que le film a été écrit par Justine Triet et son compagnon qui est Arthur Harari, qui est lui-même réalisateur mais scénariste aussi. Et Arthur Harari, donc ils ont écrit ce film à deux. Et or, il se trouve que le couple qui est à l'écran est un couple d'écrivains qui est en crise. C'est-à-dire, il y a la crise du couple, mais il y a aussi la crise de ces deux créateurs qui n'arrivent plus à écrire. Et je trouve qu'il y a une espèce de vertige dans ce film, qui est un vertige personnel, mais qui est un vertige aussi, comme tu disais, des sens, qui est un vertige... Enfin, il y a une richesse à la fois ludique, dramatique, qui nourrit constamment le film, qui joue par ailleurs sur la durée aussi, parce que c'est un film très long, ouais, qui épuise. Et ça m'a beaucoup fait penser à Saint-Omer aussi, ça. C'est-à-dire qu'il y a un renouveau du film, un renouveau du film de procès, de l'enquête. Il y avait La Nuit du 12, auquel on pense forcément parce qu'il y a Bastien Bouillon, mais qui est là parce que...
Il y avait La Fille au bracelet rouge aussi, il n'y a pas très longtemps, un film de procès français.
Ah oui, tout à fait. Ouais. Il y a cette idée-là de taper dans un sujet dont tout le monde sent qu'il est de l'époque, c'est-à-dire que c'est quand même le féminisme. C'est un grand film féministe qui, d'ailleurs, retourne le cliché du moment, puisque ça n'est pas sur un féminicide, mais c'est sur un maricide, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Et donc, elle retourne comme ça tous ces clichés pour en faire... comme tu disais, Lisa, je trouve qu'à mon avis, il n'y a pas de meilleur mot pour le qualifier. C'est un film très personnel, quoi. Extraordinairement personnel.
Et justement, en accord avec tout ce que vous venez de dire, je trouve que sans rien dévoiler sur la fin... Elle a l'intelligence, en fait, d'offrir une fin qui va avec le propos même du film. Et ça, après un film qui est long, qui est intense et qui est même, comme on disait, exigeant envers ses personnages et envers le public, qui, au fur et à mesure, presque meurt d'envie de savoir, d'être délivré un petit peu de ce conflit, de cette histoire et de cette fameuse chute. Je trouve qu'elle arrive vraiment à finir son film d'une façon très intelligente et subtile. Et c'est pas donné à tout le monde d'être capable de tenir son film sur la longueur en étant aussi cohérent et aussi juste. Et peut-être juste un petit mot sur le talent des comédiens, parce que c'est un film de procès, mais c'est vraiment un film de jeu et d'interprète. Puisque tout part, comme tu disais Lisa, avec les différents sens, on a vraiment le jeu de la langue et aussi de la langue parlée. On a de l'anglais, on a du français qui se mélangent, qui se répondent.
Par une actrice allemande en plus, Sandra Hüller.
Donc on a tout ce jeu-là autour des interprètes, autour des personnages, qui est assez impressionnant du début à la fin.
Moi, j'avoue que je voudrais pas trop en dévoiler sur la fin, mais j'ai trouvé que la fin, elle était juste en fait. C'était, elle va avec ce que Justine Triet développe tout au long de l'histoire. Et en fait, tu te rends compte que le titre, c'est pas simplement la chute du mari qui est tombé en fait de leur balcon. C'est aussi la chute du personnage de Sandra Hüller. Et en fait, quand tu connais la fin et que tu as compris la fin, et en fait, tu as vu toute cette démarche se mettre en place, tu te dis qu'en fait, la plus grosse chute, c'est potentiellement la sienne en fait. Mais je n'en dévoile pas plus. Promis.
Le film de procès, c'est presque un genre à part entière. On en connaît beaucoup. On a cité des exemples français, Saint-Omer, La Fille au bracelet rouge, aujourd'hui Anatomie d'une chute. Outre-Atlantique, on connaît plus des films un petit peu plus spectaculaires. On pense à JFK, on pense à...
12 hommes en colère.
12 hommes en colère, alors c'est un peu différent parce qu'on est dans une salle où les membres du jury justement discutent, mais bien sûr.
Les hommes d'honneur,
surtout celui que je vais citer, moi.
Anatomie d'un meurtre, surtout, qui est le film de Preminger. Et qui Anatomie d'une chute de Justine Triet fait écho au titre du Preminger.
Mais des hommes d'honneur avec Tom Cruise et Demi Moore.
La célèbre réplique.
Tout à fait, Jack Nicholson. Did you order the red code? Bien sûr, avec cet accent.
Avec ce bel accent.
Ouais. You want the truth?
You can't handle the truth. Allez,
et voilà.
The truth, bien sûr, T-R-O-U-2-S-E. Mais qu'est-ce qui plaît, en fait, dans ce genre-là du film de procès? Parce qu'on pourrait se dire que, sur le papier, ça va être un petit peu long, ça, qu'on va passer son temps dans une grande pièce avec des gens qui ont des rôles bien définis, l'accusé.
Oui, mais justement, est-ce que de base, on va dans ces pièces où on peut suivre des procès? Alors, on peut.
C'est peut-être encore une question rhétorique de
ma part.
C'est
tout à fait une question rhétorique. Non, mais on peut, mais c'est peu courant d'aller suivre un procès en temps réel. Il y a un petit côté quand même, et c'est aussi le jeu qui le veut, voyeurisme. On rentre dans l'intimité des gens, d'un fait divers parfois, d'un crime, de quelque chose d'un petit peu morbide, et qu'on le veuille ou non, c'est ça aussi qui attire au-delà du jeu de la découverte.
En fait, il y a deux choses. Il y a d'abord le fait que la justice est un spectacle, C'est-à-dire qu'il y a des rituels, des codes, c'est scénarisé, il y a des acteurs, rôle, voilà, chacun a son rôle.
Scène, oui.
Et donc, évidemment, pour que la justice se met en scène, donc forcément, le cinéma peut naturellement prendre ça en compte. Et je pense que, inversement, la justice a besoin d'être enregistrée, surtout la justice américaine d'ailleurs, parce que c'est pas trop un genre en France. Il y a eu quelques grands cinéastes français, je pense à Kayat, je pense avec il a fait une tétralogie dans les années 50 sur des grands procès, André Kayat, je pense à Clouzot qui avait fait La Vérité, qui est l'autre grand film de procès des années 60 avec Bardot, mais en réalité la justice américaine, elle doit passer l'épreuve du cinéma d'une certaine manière, parce que ce que raconte le grand cinéma américain classique, c'est la civilisation américaine, c'est la construction de la civilisation américaine. Il y a un geste presque démocratique à faire du cinéma quand on voit les Ford, les Capra, les Hawks, etc. Et une des institutions essentielles qui permet à la démocratie de vivre, c'est la justice. Et il y avait besoin de... Enfin, le cinéma devait naturellement raconter ce qui se passait dans les tribunaux, quoi. Donc, je pense que c'est pour ça, en fait, qu'il y a un genre américain du procès, quoi.
Et puis, il y a peut-être aussi quelque chose lié à la géographie de l'endroit. C'est-à-dire que chaque metteur en scène peut se permettre de tester justement de nouvelles choses sur sa façon de filmer ça, parce que ça reste en général des grandes pièces avec des gens dedans.
Ça peut être un huis clos.
Soit c'est un huis clos, soit justement on part et on se permet de faire en même temps une enquête en parallèle de ça. Je pensais aussi à, d'une certaine façon, le film de Clint Eastwood, Sully. Alors, c'est pas vraiment un film de procès, mais on est sur un film d'enquête, où justement le personnel de Sully, interprété par Tom Hanks, est devant cette espèce de comité qui va devoir décrypter absolument chaque fait et geste qu'il ait pu faire dans le cockpit avant son amérissage. Mais Lisa, tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui, sur pourquoi les films de procès, ça nous passionne tant. Je pense aussi que ça a à voir aussi avec la psychologie des personnages. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un à la barre interrogé par un procureur, par exemple, je pense qu'à un moment, il y a toutes nos contradictions humaines, tous nos défauts, surtout quand c'est un coupable qui est à la barre. Mais je pense que ça met en avant... peut-être des choses très profondes qu'on a enfouies dans notre humanité, que peut-être nous, en tant que spectateurs, on a quelque part, et peut-être qu'il y a quelque chose du fait de la résonance, en fait, avec le personnage, ses motivations, sa défense, le fait qu'il pourra peut-être pas se défendre non plus. Donc je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'identification, en fait.
Et ce que je trouve intéressant, c'est que, contrairement à Saint-Omer, qui était précisément sur ce terrain-là, c'est-à-dire la psychologie de celle qu'on voyait, dont on savait qu'elle avait commis le meurtre, etc. Anatomie d'une chute ne cherche jamais à fouiller la psychologie des personnages qui viennent à la barre. On ne saura pas qui est vraiment au fond le personnage joué par Sandra Hüller. On le saura pas parce que
c'est pas le sujet.
Parce que c'est pas le sujet.
Film, ouais.
Et ça, je trouve ça fou, en fait, justement, qui est comme tu dis, un des ressorts essentiels, c'est ça, du genre, c'est travailler, fouiller la personnalité du personnage qui monte à la barre. Et là, elle fait le contraire, quoi.
Et je pense que c'est pour ça qu'Anatomie d'une chute a autant marqué aussi. C'est qu'à un moment, si elle prend ce contre-pied-là, Justine Triet, c'est que elle a réfléchi à tout ça et à tous ces codes. Et en fait, en les dynamitant, je pense que c'est aussi pour ça qu'elle marque le jury de Ruben Östlund.
Anatomie d'une chute, c'est donc à découvrir cette semaine au cinéma, Palme d'Or, au dernier Festival de Cannes. Parmi les événements... dont on pourra profiter cette semaine du 23 août dans les cinémas pâtés, dans un tout autre genre qu'Anatomie d'une chute, c'est le festival IMAX, puisque dans ce cadre-là, justement, c'est le retour de plusieurs films IMAX. Alors, pour redécouvrir toute la programmation, vous allez sur le site internet des cinémas pâtés ou sur les réseaux sociaux de Pâté France, bien sûr. Pendant une semaine, ça sera l'occasion de redécouvrir des films qui ont marqué l'année, justement, en IMAX. Et dans ce cadre-là, eh bien, c'est l'heure de notre grand jeu de l'été. Bien sûr, il est tant attendu par Lisa à chaque épisode.
Comme chaque semaine.
Je sais qu'elle compte les jours, justement,
moi,
avant chaque nouveau jeu.
Je continue à mettre des commentaires, mais ça ne marche pas.
Et non, parce que tu fais partie de l'équipe, donc ça serait un petit peu biaisé.
Même avec mon compte, ça ne marche pas.
Mais oui, non, parce qu'on les a comptés, on les a tous trouvés. Il y en a 47, rendez-vous compte. Tentez de remporter cette semaine deux places pour aller découvrir justement les films IMAX présents dans ce festival. En répondant à une petite question, elle est simple, c'est justement, c'est même pas vraiment une question, c'est plutôt genre, on discute, encore une fois, on fait un peu de bounding, on crée comme ça des moments de partage. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression de partir dans un monologue, dans le monologue d'Otis, dans Mission Cléopâtre. Hein. La vie est une succession de rencontres. Je sais pas où je voulais en venir, moi. Ah si, ben voilà, donc pour tenter de gagner ses places, donnez-nous, partagez avec nous votre meilleur souvenir en IMAX dans les commentaires. Mais dans les commentaires de quoi, Lisa ?
Eh bien, tu mets un petit commentaire sur la page Instagram de de Pâté France.
Et oui, voilà, simplement. Vous allez chercher la publication en question qui parle du Festival IMAX, vous répondez, et puis vous tentez de gagner deux places pour aller profiter de ces films-là en IMAX au cinéma.
Moi, j'aurais mis que c'était Oppenheimer, IMAX, Pâté la Villette, fantastique.
Moi, je sais pas exactement ce que c'est. Mon meilleur souvenir en IMAX.
Non, je peux pas jouer. Mais non, il te traque les faux comptes.
Je me demande si c'est pas First Man, premier homme sur la Lune, quand il y a l'alunissage et que la caméra sort du module lunaire et qu'on suit le personnage de Ryan Gosling sur la Lune et qu'en même temps il y a la musique extraordinaire de Justin Hurwitz et qu'on est là pendant 10 minutes à marcher sur la Lune avec l'écran IMAX. Totalement plein.
Vous avez déjà tous oublié Avatar, la voie de l'eau.
Non, mais j'essaye de sortir un peu des sentiers battus.
C'est trop facile.
C'est trop facile. Évidemment, Avatar, la voie de l'eau, c'était extraordinaire en IMAX. Du coup, ça serait ton petit.
Oui,
ton
je
petit
pense.
Favori.
J'ai du mal à trouver une séance plus immersive que
ça. Ah non, mais attends, attention. Hein. Titanic aussi, c'était pas mal en IMAX. Hein. Le premier Avatar aussi, quand ils sont sortis l'année dernière, on s'est régalé. Un film qui fait l'actualité également cette semaine et qui sort sur les écrans ce 23 août, c'est Le Dernier Voyage du Déméter, un film réalisé par André Ovredal.
Les bêtes ont été déchiquetées.
Elles sont toutes mortes.
On dirait une morsure.
Fouillez le navire. Cherchez partout.
Le mal est à bord. Un mal terrible.
C'est donc le grand retour des aventures du comte Dracula, n'est-ce pas Robin ?
Tout à fait.
Tu as vu le film. Pas vu Dracula en personne, attention.
Non, pas encore. Mais j'ai vu le film, effectivement. Mais grand retour, finalement, il n'était pas parti depuis si longtemps, avec Renfield il y a quelques mois.
Tu as juste envie de me contredire et d'être désagréable.
Il y a un propos derrière, évidemment, Alexis.
Tout ça est construit, bien sûr. Hein. Une mécanique de la pensée. Mais je t'en prie.
Bien sûr. Donc, le dernier voyage, du Déméter qui, très rapidement, adapte un simple chapitre du livre de Bram Stoker qui vient conter le voyage de Dracula de la Transylvanie en Angleterre sur le navire qui se nomme le Déméter. Un navire qui va, c'est dit dès le début du film et dans le livre, qui va s'échouer sur le petit village portuaire de Whitby, en Angleterre, et sans aucune âme vivante à bord, si ce n'est un gros chien qui va sauter du navire pour s'enfuir dans la forêt.
Ça donne envie, en tout cas.
Voilà. Et donc, dans toutes les adaptations de Dracula qu'on a pu voir, c'est un passage très très court, finalement. C'est juste une péripétie qui amène le personnage d'un endroit à l'autre avant que l'intrigue se déroule avec les nouveaux personnages introduits. Mais, déjà dans le livre, le dernier voyage du Déméter, c'est un peu le huis clos parfait. C'est le huis clos par excellence. C'est le alien sur un bateau avec une créature, un équipage qui ne peut pas s'enfuir, et forcément les morts qui vont s'accumuler. Donc, c'était tout à fait logique et cohérent d'adapter ce simple passage du livre en film. C'est le cas aujourd'hui.
Parce que, comme tu le disais, dans le livre, c'est vraiment un court
passage. C'est ça, c'est
un passage.
C'est le compte-rendu, finalement. C'est un peu la boîte noire qu'on retrouve, le compte-rendu du capitaine qui explique comment les événements commencent avant de réaliser, forcément, que cela va très mal finir.
Et ce qui est intéressant de préciser, c'est que, si je reprends un peu le parcours du personnage de Dracula, c'est qu'on arrive à un moment de sa vie où il ressemble de plus en plus à un être un peu... Tu vois pas où je veux en venir.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Dracula, c'est un personnage qui est effectivement en mesure de se transformer en de nombreuses choses, que cela soit humain, créature ou animal, ou même brume et compagnie. Et effectivement, il est sur ce bateau, mais il est en tant que passager clandestin. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui ajoute l'aspect alien, d'avoir une créature qui rôde, mais de ne pas trop la voir ou de ne jamais la voir. J'ai beaucoup aimé le film. Justement, j'aime beaucoup l'idée qu'on entre dans les entrailles du navire, qu'on suive l'intrigue de l'intérieur en découvrant d'abord les personnages, le capitaine, les matelots, de vivre un petit peu avec eux avant de réaliser que Dracula est à bord, comme eux. D'habitude, dans les adaptations de Dracula, le navire, c'est quelque chose qu'on voit de très loin. Donc on ne vit pas avec eux, on n'est pas à l'intérieur du navire. Là, c'est le cas. Donc déjà, on a vraiment une plus-value par rapport aux autres adaptations. Et on a tout l'aspect horrifique qui est très bien réalisé. Je trouve la direction artistique, c'est beau, c'est vraiment un bateau tangible, concret. On sent les éléments autour, que ce soit le vent, la pluie, l'eau qui tombe. Et petit à petit, on a ces morts et ces disparitions qui commencent avec un rendu d'ailleurs de Dracula que j'aime beaucoup, qui est un peu un mélange assez subtil, soit du Nosferatu de Murnau, soit du Dracula bête de Coppola. Et j'aime beaucoup le style. Je trouve que vraiment, on a une adaptation qui se démarque des autres.
Et, bête bestiale, hein.
Tu dis bestiale, tout oui, à fait. Oui. Voilà pour ce petit monologue sur le dernier voyage de Dracula.
Tu es le seul à l'avoir vu, hein, c'est bien normal.
C'est vrai, tout à fait.
Mais en tout cas, tu nous as donné envie.
Mais j'allais le dire, franchement,
ouais, tu m'as fait envie.
Ouais, c'est vrai. Non, j'ai envie vraiment beaucoup ça, aimé. Ouais. Et j'aime beaucoup le fait qu'on, justement, on ne voit pas l'avant. Et parce que le film le veut, on ne voit pas l'après. Mmh. Donc ça ne commence pas avec le classique Jonathan Harker qui arrive au château du comte Dracula, puis Dracula qui est face à Van Helsing, etc. C'est le bateau qui compte, et c'est que ça qui compte.
Non, ce qui a l'air hyper intéressant, c'est l'aspect huis clos. C'est le côté alien avec
tout
Dracula
à fait,
dans un bateau.
Voilà, on est en pleine mer, donc on ne peut pas s'enfuir. On est donc au 19e siècle en plus, hein, c'est pas du tout contemporain. Et puisque Dracula est aussi en mesure de contrôler un petit peu les éléments, on a vraiment cet aspect brumeux qui les entoure. Donc il n'y a aucun échappatoire.
Le dernier voyage du Déméter, c'est donc à découvrir cette semaine dans le cinéma pâté. Toujours à l'affiche, bien sûr, bien tous les films qu'on cite depuis moult semaines, qui font toujours l'événement en salle, que ce soit Barbie, Oppenheimer, Mission Impossible, Gran Turismo, Tortue Ninja, et puis bien sûr tous les dimanches, Harry Potter, à redécouvrir sur grand écran dans les cinémas pâtés. Avant de terminer cet épisode, on va revenir peut-être sur les bonnes raisons, justement, d'aller voir les sorties de cette semaine, à savoir Anatomie d'une chute, mais aussi Le dernier voyage d'une Déméter. On commence par le premier film de Justine Triet. Pourquoi faut-il aller voir au cinéma ce film ?
Moi, je vais dire Sandra Hüller, que je trouve vraiment, vraiment incroyable. Elle a une espèce de masque pendant le film qui fait qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans sa tête, ce qu'elle pense. Et malgré ce masque, elle n'est jamais inexpressive. C'est vraiment un paradoxe que je trouve assez fascinant à regarder. C'est une très, très, très grande actrice. Et vraiment là, elle a un rôle qui est assez, assez fantastique. On la retrouvera dans Zone of Interest dans quelques mois, je pense.
Et puis cette capacité qu'elle a aussi à jouer en plusieurs langues.
Ouais.
Et à montrer justement différents niveaux de lecture, c'est assez, assez impressionnant. Lisa ?
Moi, je dirais pour l'acteur qui joue son fils, alors je ne veux pas écorcher son nom, mais c'est Milo Machado-Graner. C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué quand on discutait un peu plus en détail du film. Je trouve qu'il a quelque chose sur le visage. Encore une fois, tu parlais de masque et c'est vraiment marrant parce qu'il y a une scène à la fin, il y a un plan sur lui à la fin qui est juste saisissant, et rien que pour ça, et je me suis dit que ça complétait exactement tout le portrait qu'on dresse de lui aussi à travers ce film, qui est juste bluffant, et il m'a à la fois touchée, et même des fois peut-être un peu terrifiée, et c'est hyper intéressant cette dualité.
Et puis il a un rôle clé dans le film.
Et il a un rôle clé, évidemment.
Robin ?
Je dirais pour la qualité du montage. On n'en a pas parlé, mais justement le montage joue avec, que ce soit le montage d'ailleurs visuel ou sonore, mais arrive à jouer avec les différentes temporalités, les différents éléments donnés aux spectateurs, les différents discours aussi des personnages, et je le trouve vraiment intéressant, et on sent que sans le montage, c'est toujours le cas bien sûr, mais ce film-là n'aurait pas eu la même couleur et je pense le même intérêt.
Et j'ajouterais pour l'aspect le film de procès, justement on joue avec tous ces codes-là de montrer ce qui se passe dans la... à l'extérieur du tribunal, et en même temps on revient, il y a cette espèce de ping-pong un peu constant pendant tout le film qui est formidablement réussi, au-delà de bien sûr toutes les raisons que vous avez précédemment citées. Et pourquoi faut-il aller voir Le dernier voyage du Déméter, Robin ?
Pour le parti pris du film, qui est tenu du début à la fin, et qui a une vraie originalité dans les adaptations et dans les histoires de Dracula qu'on voit depuis plus de 100 ans au cinéma.
Anatomie d'une chute et Le dernier voyage du Déméter, c'est donc à découvrir cette semaine dans les cinémas pâtés. La semaine prochaine, épisode exceptionnel, puisqu'il sera entièrement dédié à une trilogie de légende, Le Seigneur des Anneaux. Mais pourquoi me direz-vous ? Car, tout simplement, la semaine suivante, la semaine du 6 septembre, ressortira toute la semaine la trilogie de Peter Jackson au cinéma pour la première fois en France en IMAX, en Dolby Cinema et également dans des salles classiques, le tout pendant une semaine. La version courte, hein, parce que la version longue, si on passait le film de 5 heures, Le Retour du Roi, eh ben, ça fait 2 séances par jour, ça devient un poil compliqué. Donc, la semaine prochaine, on parlera largement de Seigneur des Anneaux qui fera son retour dès le 6 septembre dans les cinémas pâtés. Et puis voilà, un joli programme en perspective, histoire de finir ce mois d'août. D'ici là, moi, écoutez, je vous souhaite un bel été.
Merci.
Merci. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été là. Merci Gaël.
Merci Alexis.
Merci Lisa.
Merci beaucoup.
Et merci Robin.
Merci.
Eh bien, écoutez, on vous souhaite de passer un très très bel été au cinéma et ailleurs, bien sûr. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler du Seigneur des Anneaux. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt au cinéma.
Pardon, je voulais faire la bande-annonce, excuse-moi, je voulais faire la bande-annonce.